Merci beaucoup, Samir. Je profite de ma proximité du micro pour lancer une première question ou une première observation que je trouvais très intéressante dans ce que tu as montré et ce que tu décris dans ton livre aussi, qui est cette idée de partir, de sortir de l'idée de capacité intransèque qu'auraient les plantes, mais de plutôt t'intéresser à ce lien, à cette mobilisation ou capacité que vont avoir des plantes au moment de leur usage. Et du coup, dès le départ, de les approcher, de les interroger dans un système relationnel qui est toujours un système social et du coup un système dans lequel se négocient des relations de pouvoir coloniales et autres et patriarcales. Et où les qualités en fait vont se déployer dans cette interaction. J'aimerais bien que tu reviennes un tout petit peu à cette idée, juste pour la souligner dans le, parce que justement, je pense que c'est une approche qui est très loin de celle de l'approche de la collecte des herbiers européens qui vont collectionner des plantes pour les classifier, pour y attribuer des qualitatifs qui feraient totalement partie de la plante et qui la déconnectent d'une certaine manière de la question des usages, et où tu amènes justement cette question de la pratique des plantes et du coup de leur circulation possible et avec les circulations, un déploiement de leur qualité qui prend des teintures différentes selon les contextes.
Merci, mais c'est très dur de répondre à cette question parce que, effectivement, tu as tout à fait raison. Hein, l'intérêt avec les plantes, c'est justement pas de les réduire aux propriétés qu'on leur identifie aujourd'hui, et notamment à la présence ou pas de molécules. Merci. La présence ou pas de molécules, ce genre de choses. Et là où ça a effectivement un intérêt, c'est que ça montre le problème l'impasse du travail des botanistes, du travail des naturalistes, etc. C'est-à-dire que quand ils se rendent dans un endroit pour observer des plantes, pour donc faire des inventaires, pour collecter des spécimens, etc., etc. À partir du moment où ils ont une vision de la plante, par exemple celle qui consisterait à observer sa forme et lui assigner un certain nombre d'attributs dans le cadre d'une théorie médicale, etc. Eh bien, en fait, ils vont louper tout ce qui est extérieur à cette théorie médicale, à cette conception, etc. Donc, ils peuvent, d'une certaine manière, diviser le travail en deux en disant on regarde ce qui nous intéresse, et puis, comme curiosité, on regarde les usages un peu spécifiques, un peu particuliers, un peu étonnants aussi qu'ont les Indiens, les esclaves, etc., etc. Et en fait, s'ils font ça, ils risquent effectivement de ne pas comprendre le pouvoir des plantes lui-même, qui ne s'active qu'à travers un certain nombre d'usages. Et l'exemple qui le montre très bien, mais il est très piégeux, l'exemple, ce serait celui des plantes qui sont utilisées en association. C'est-à-dire qu'une plante, je ne sais pas si vous connaissez l'ayahuasca. Bon. Alors, on l'appelle l'ayahuasca, mais c'est un peu une erreur. Enfin, c'est donc, en fait, c'est un breuvage, mais qui est un breuvage en fait, réalisé à partir de très nombreuses plantes. Dans l'ayahuasca, c'est la liane qui fournit l'essentiel de ce breuvage, mais elle est aussi associée à une autre plante qu'on appelle yacruna ou chacruna, qui est tout aussi importante. Et en fait, quand on regarde l'association de ces deux plantes, ce qui est intéressant, c'est que l'ayahuasca, c'est un émétique, donc ça fait vomir, et c'est la yacruna qui va être, ou la chacruna qui va être psychoactive. Mais en fait, elle est psychoactive que si on utilise le vomitif en même temps, parce que le fait de vomir permet ensuite de capter un certain nombre de... c'est la chimie qui le dit. Donc, ça montre bien que si on n'observait qu'une plante, sans ce premier système relationnel qui est l'association des substances, on ne comprendrait pas. Mais en fait, on ne comprendrait pas non plus si on ne prenait pas en compte le fait que lorsqu'est utilisée cette plante, il y a des champs, des danses, ça s'utilise la nuit, donc ça aussi, ça fait partie du système relationnel, hein, c'est-à-dire à quel moment on l'emploie, à quel moment on ne peut pas l'employer, pour qui elle peut être bonne, pour qui elle peut être dangereuse. Et en fait, tout ça fait que la réalité du pouvoir des plantes dépend avant tout de son usage et de son usage particulier, à un moment donné, par une personne particulière, etc. Et ça, ça ne peut pas entrer dans le grand tableau, dans la grande base de données des naturalistes. Alors, c'est parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils s'amusent à faire un peu des enquêtes qu'on pourrait plus ou moins qualifier d'ethnographiques, comme le missionnaire franciscain que j'évoquais au départ. Mais comme, par ailleurs, ils y voient de la superstition, ils rejettent aussi ces pratiques, et donc ils ne peuvent pas en comprendre l'usage. Donc, effectivement, la grande leçon de cette histoire des plantes à partir des usages, c'est en fait que, pour revenir à ce que tu disais au départ, c'est que tout ne peut pas passer. Que le fait de fixer par écrit, ça annihile une partie de la pratique, d'une part, et que, par ailleurs, le fait de traduire, ça met de côté un certain nombre de choses. Et donc, c'est intéressant aussi pour penser ces idées qui sont très à la mode de mondialisation des savoirs, etc. Eh bien, il faut se dire que des savoirs qui peuvent être transmis au-delà des endroits dans lesquels ils sont effectivement utilisés, en fait, ce sont des savoirs qui sont déjà des chimères. Et c'est un peu cette tension-là de la botanique coloniale qui est reconduite encore aujourd'hui par les biosciences ou ce genre de choses. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà, c'est une des pistes que suit le livre.
Ouais, peut-être pour continuer la question de l'autre, je voulais savoir si dans votre recherche sur l'Inquisition et les sorcières, et la puissance, je dirais, des plantes, vous vous êtes intéressé aussi à la question de la répression par rapport à la reproduction. Et je pense au livre de Silvia Federici, Caliban and the Witch. Et comment vous adressez cette grande question des sorcières par rapport au contrôle de la reproduction, l'autonomie que les plantes...
Ah, merci, non, c'est une question intéressante. Donc effectivement, j'ai dû mettre de côté, j'avais prévu d'en parler, la question des abortifs, qui fait partie de ces plantes traditionnellement associées aux sorcières et qui ont fait l'objet à la fois d'une très très forte prohibition, mais aussi d'une loi du secret qui empêche en fait d'en faire une histoire aussi facilement que les plantes comme le chocolat, sur lesquelles on a beaucoup plus de sources. Donc les abortifs, ça peut apporter des réponses à ça. Donc c'est un peu à travers ça que je me suis intéressé aux questions de la reproduction et de la possibilité ou pas de contrôler sa sexualité. Après, sur la thèse de Federici, c'est très compliqué, je ne sais pas. En fait, elle a une petite partie, je ne sais plus si c'est la deuxième, troisième ou quatrième, sur l'Amérique, que moi, je ne trouve pas très convaincante. Mais après, bon, je pense qu'en Amérique, le problème est vraiment très, très différent. Ah ben, pour plein de raisons, en fait. Mais en tous les cas, juste ce qu'elle dit sur l'Europe, ça dépend comment on voit la chose. C'est-à-dire que si on veut le voir du point de vue vraiment historique, etc., il y a sans doute des liens qu'il faudrait préciser. Mais moi, je suis assez favorable à l'idée qu'elle présente. Je trouve que c'est très intéressant et que, effectivement, le fait d'avoir mis sous contrôle le ventre des femmes est un aspect assez, assez important dans le développement du capitalisme. Donc, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord pour dire que la chasse aux sorcières, c'est fondamental. Enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs étonnant qu'on l'apprenne si peu dans les écoles, parce que ça, c'est absolument fondamental. Donc ça, je suis d'accord. Pour l'Amérique, là, il y a d'autres aspects. Enfin, c'est-à-dire que, déjà, les possibilités du contrôle ne sont pas aussi importantes. Et puis, il y a quand même un aspect vraiment qui change tout, c'est la mortalité énorme qu'il y a en Amérique, qui fait que la question de la reproduction ne se pose pas du tout de la même manière. Et ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième point, c'est que si, par exemple, on regarde la question de la chasse aux sorcières, dans le livre de Federici, c'est quand même très lié au mouvement des enclosures, c'est-à-dire à des formes de d'expropriation des communs, ce genre de choses. En fait, en Amérique, l'expropriation, elle a présidé à la conquête. Enfin, une fois que la conquête est installée, il y a énormément de choses qui sont déjà... tout a été exproprié dès le départ. Donc, la chasse aux sorcières ne pouvait pas avoir cette fonction-là, ou en tous les cas, de manière vraiment secondaire. Donc, je pense que l'une de ces fonctions, l'une des fonctions de la répression de ce qu'on appelle la sorcellerie à l'époque, c'est beaucoup plus le contrôle des imaginaires. Donc ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est que ça peut paraître un peu paradoxal, mais autant l'Inquisition en Espagne, en Amérique, mais surtout en Espagne, a été une institution très forte, qui a été aussi très dure dans ses pratiques, évidemment, autant elle a, à part de rares épisodes comme ce qui se passe dans les années 1610 au Pays Basque, c'est l'une des institutions religieuses et judiciaires qui accordait le moins d'importance à la sorcellerie. Donc ça ne joue pas un rôle aussi important que, par exemple, dans l'Angleterre du XVIe et du XVIIe siècle ou dans l'Italie. Donc il y a des différences, mais ça mériterait des recherches un peu plus poussées. Et c'est la raison pour laquelle les thèses de Federici ne sont pas très présentes dans ce que j'ai fait, parce que ça ne colle pas bien, quoi.
Ça permet en tout cas de revenir à cette question de l'agnotologie de Landa Schibinger, qui justement va se concentrer sur les abortifs et sur cette spéculation que Glynis Ridley, qui est la biographe de Jeanne Barré, va avoir sur deux pages manquantes dans le carnet de notes où on trouve les noms des plantes que Jeanne Barré a rapatriées ou ramenées en France. Où en fait, il y a toute une spéculation sur ces pages arrachées, où se pose la question de la censure après coup d'un certain type de plantes qui auraient pu être notées à ces endroits-là et qui, au moment d'intégrer les grandes bibliothèques du jardin des plantes, donc de ce haut lieu du savoir de la biologie impériale, serait ou aurait été soumis à une censure au moment de l'arrivée, ou même au moment avant, parce que on ne sait pas du tout à quel moment cette intervention aurait eu lieu. Et bon, il y a toute une discussion entre Samir et Landa Schibinger autour de cette notion qu'elle emploie de l'agnotologie, qui serait donc une production consciente de certains savoirs qu'on empêche d'amener en Europe, où on essaye de justement pas connecter ou de justement pas chercher des savoirs pour les amener en Europe, mais pour justement couper ces circulations-là, qui seraient liées aux savoirs notamment féminins ou de femmes sur leur corps et sur les savoirs reproductifs. Et ce que Samir essaye dans son livre, en discutant cette thèse de Landa Schibinger, c'est notamment de mettre en avant les différents contextes démographiques et dans le et dans la relation des au sein même de la population qui se passe en Europe et qui sont pas du tout parallèles à ce qui se passe dans les Amériques au même moment.
Sur le concept d'agnotologie, je ne sais pas si c'est très connu, hein, cette idée de la production de l'ignorance. C'est aussi lié au compagnon de Schibinger, c'est Robert Proctor, hein, qui développe ça. Et c'est par exemple très, très utilisé aujourd'hui pour tout ce qui concerne une autre plante médicinale qui vient d'Amérique, qui est le tabac, la consommation du tabac, et donc la capacité, par exemple, d'un certain nombre d'entreprises du tabac de produire de l'ignorance à propos des effets du tabac sur la santé, etc. Donc il y a plein d'usages possibles de cette notion. La façon dont Schibinger l'utilise, c'est effectivement le fait de voir comment est-ce que... En fait, l'idée, elle est quand même vraiment intéressante, c'est-à-dire que ça prend un peu le contre-pied de la science glorieuse qui augmente les connaissances, qui acquiert toujours plus de connaissances, etc., etc., parce qu'effectivement, on se rend compte que, d'une part, elle est aveugle à tout ce que j'évoquais tout à l'heure sur ces systèmes de relations dans lesquels prend sens l'usage des plantes, et d'autre part, de manière consciente, comme tu l'as dit, écarte des connaissances. Et donc, l'exemple typique de ça, ce serait le fait que les naturalistes qui voyagent ne s'intéressent pas aux abortifs ou sont pas capables de les voir, et que l'une des seules personnes qui voit justement l'usage abortif des plantes, c'est une femme qui s'appelle Maria Sibylla Merian, donc une Hollandaise qui va dans l'actuel Suriname. Alors effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est tout à fait exact et qui est aussi assez bête à comprendre, dans le sens où publier dans un ouvrage d'histoire naturelle une section sur les abortifs, ça n'a c'est pas possible à l'époque, quoi. Par contre, si on regarde dans le détail, moi j'ai trouvé quand même un certain nombre de naturalistes qui s'intéressaient vraiment aux abortifs, donc ça pose ce problème-là. Et puis c'est surtout le fait que si on regarde ça c'est très intéressant justement sur la question de la clandestinité, sur la question en fait de comment on fait passer un savoir qu'on n'a pas le droit de faire passer. Et si vous regardez des textes de l'époque qui évoquent l'usage de plantes. Très varié. Quand on dit qu'une plante est dangereuse pour les femmes enceintes, une fois sur deux, c'est un clin d'œil qui dit ça peut permettre d'avorter. Et donc c'est le cas aussi d'une plante sur laquelle j'insiste beaucoup parce qu'elle est vraiment fondamentale. C'est une plante qui s'appelle le quinquina, qui vraiment change tout à la médecine européenne et qui a aussi vraiment des effets très importants sur la colonisation en Amérique. Et le quinquina a des propriétés aussi éménagogue, c'est-à-dire que ça favorise l'arrivée des menstrues, des règles, et donc ça a parfois conduit à des fausses couches, et du coup, quand les médecins mettent en garde contre cet usage, ils peuvent, dans le même temps, valider son usage comme abortif. Au XIXe siècle, ça a été très utilisé comme un abortif, le quinquina. Donc voilà, il y a plein de modalités qui sont de ce point de vue-là intéressantes. Mais moi, j'aurais tendance à dire que le véritable problème, c'est que si on parle de production de l'ignorance, alors il faut vraiment le voir dans les deux sens. Et c'est ça le souci, c'est que, ou même dans plusieurs sens, c'est qu'à partir du moment où on ne veut pas donner à savoir, c'est-à-dire la question du secret, on ne veut pas dire quelles sont les plantes qu'on utilise pour avorter, etc., etc., et bien, en fait, on produit de l'ignorance. C'est-à-dire que la clandestinité, c'est aussi une forme d'agnatologie. Ça permet en fait de ne pas dire aux autorités ce qu'on fait. Donc en fait, l'agnatologie, c'est pas forcément mal. Enfin, une arme. Oui, mais c'est aussi une production d'ignorance dans la mesure où le savoir officiel ignore cela. Donc, et je pense que pour moi, le sens le plus important de la production de l'ignorance, c'est effectivement d'empêcher les gens de connaître ou de détruire des savoirs. Et ça, effectivement, sur la question des abortifs, ça joue un rôle parce que je pense que, alors peut-être que je me trompe et que c'est justement lié à cette rétention des savoirs, mais mon sentiment aujourd'hui, si je me trompe, il faut me le dire, c'est que la connaissance commune des plantes qui permettent d'avorter est beaucoup moins importante en 2017 qu'elle y était il y a deux siècles, chez les femmes, etc. Et ça, effectivement, historiquement, on a non seulement un recul de la connaissance des plantes, etc., mais un véritable recul de la capacité d'action. Et c'est, de ce point de vue-là, assez intéressant de voir comment on cessait de se transmettre des connaissances au sein des groupes de femmes. Si je ne me trompe pas, il est possible que ça continue de se transmettre, etc. Et le grand paradoxe, c'est que l'une des raisons pour lesquelles... C'est vraiment très paradoxal, hein, et donc moi, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais c'est intéressant, c'est qu'une des raisons pour lesquelles ce savoir aurait cessé d'être transmis, c'est précisément, ça pourrait être le fait que l'avortement étant légalisé, il a été pris en charge par la médecine, et donc du coup, il n'y avait plus d'intérêt à se transmettre ce type de savoir. Et donc c'est là que je trouve qu'une lutte comme celle du MLAC, Aix-en-Provence, etc., ces femmes qui avaient décidé d'avorter par elles-mêmes malgré tout, en dépit de la légalisation de l'avortement, etc., c'est une lutte qui est très très intéressante parce qu'elle pose la question de l'autonomie des savoirs. Je pense que derrière la question de la gnotologie, la véritable question c'est celle de l'autonomie, mais c'est très compliqué, voilà.
Ce qui est peut-être une belle façon de terminer cette première partie de la discussion. Mille merci, Samir, pour ta présentation. Je pense qu'il y a plein d'éléments dans ce que tu as dit qui vont ressurgir dans la présentation de Teresa et dans la discussion qu'on aura plus tard autour du film de Laura.